VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes, le monde aujourd'hui, édition du mercredi 12 octobre 2016. En direct de Washington, Idrissa Sidoudia et Anne Albertson pour commencer les titres.
République démocratique du Congo, l'émissaire spécial de l'ONU tire la sonnette d'alarme devant le Conseil de sécurité sur l'impasse politique dans ce pays.
En Côte d'Ivoire, le Parlement approuve la réforme de la Constitution demandée par le président Ouattara.
Afghanistan, un attentat contre des pèlerins chiites fait au moins 14 morts et 30 blessés à Kaboul. On ignore le bilan d'un autre attentat survenu dans la même soirée.
Israël boucle les territoires palestiniens et place sa police en état d'alerte à Jérusalem à l'occasion de la fête de Yom Kippour.
Et ne manquez pas notre segment quotidien sur la présidentielle américaine, sans oublier la page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
En RDC, pas de solution immédiate en vue dans la crise politique. Tel est l'avertissement lancé devant le Conseil de sécurité par l'émissaire spécial des Nations Unies dans ce pays, Maman Sambo Sidikou. Il a mis en garde contre d'éventuelles violences à grande échelle suite à cette crise née de l'apparente volonté du président Joseph Kabila de se maintenir au pouvoir, selon l'opposition, en violation de la Constitution. Eddy Issango.
Pour Maman Sambo Sidikou, la République démocratique du Congo est entrée dans une période extrêmement risquée pour sa stabilité. Toutes les parties semblent de plus en plus vouloir recourir à la violence et les perspectives des négociations politiques s'amenuisent, a-t-il indiqué. Si l'on continue dans cette trajectoire, je pense que des violences à grande échelle sont inévitables, a-t-il prévenu. Le numéro 1 de la mission de l'ONU en RDC a rappelé qu'au moins 49 civils ont été tués à Kinshasa dans une série d'affrontements meurtriers en septembre. Des manifestations au cours desquelles des militants de l'opposition demandaient la démission de M. Kabila et qui ont été réprimées par la police avec l'implication de la garde présidentielle de Joseph Kabila. Selon M. Sidikou, la MONUSCO, forte de 22 000 hommes, serait dans l'impossibilité de garantir la protection des civils si les pays tombent dans les chaos. De nouveaux rassemblements sont prévus le 19 octobre et M. Sidikou a appelé les Nations Unies et les acteurs régionaux à favoriser les dialogues.
Toujours en RDC, Gédéon Kiungu Mutanga, chef de la milice Bakata Katanga, s'est rendu aux autorités de la province du Haut-Katanga avec une centaine de miliciens. Il s'était évadé de prison en septembre 2011 de Lubumbashi, notre correspondant Narval Mabila.
C'était dans la mi-journée du mardi 11 octobre à une quarantaine de kilomètres du centre-ville de Lubumbashi sur la route Kasanga. Il a été présenté à la population devant la grande place du bâtiment du 30 juin, siège de l'Assemblée provinciale. Thierry Mukelekele, qui est l'un des porte-parole et qui a mené les négociations avec le gouvernement, parle du contour de sa reddition et la vision de Gédéon Kiungu Mutanga qui a créé son parti politique.
Gédéon, je l'ai fait sortir parce que je lui ai parlé de la Constitution. Je n'ai trouvé aucun politicien. Moi, je suis le témoin de Gédéon. C'est la deuxième année que je suis avec Gédéon. Il n'y a aucun politicien. Gédéon est doté depuis 1998 par feu Moussé Laurent Désiré Kabila. Et ses armes n'ont jamais été récupérées dans sa totalité. Et aujourd'hui, lui-même vient avec l'armée pour faire un signal fort. Et le processus va se poursuivre. Nous voulons que le monde sente que les Congolais se font la paix. Je profite pour lancer un appel à tous les jeunes gens qui sont à la Kenya, à Kalebuka, à Kasungani, partout là-bas à Kilobelo, qu'ils déposent les armes. Ça ne sert à rien. Nous savons qu'ici à Lubumbashi, il y a des jeunes gens qui sont armés.
Les dossiers Gédéon Kiungu Mutanga de Bakata Katanga est une boîte de Pandore qu'on vient d'ouvrir. Lubumbashi, Narval Mabila, VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, le Parlement a voté hier en faveur de la réforme de la Constitution souhaitée par le président Alassane Ouattara pour supprimer notamment la clause d'ivoirité, une source de tension dans un pays qui a accueilli de nombreux immigrants. Cette réforme porte également sur la suppression de la limite d'âge légal de 75 ans pour les candidats à la présidence, ainsi que sur la création d'un poste de vice-président et d'un Sénat dont le tiers des membres serait nommé par le chef de l'État. La nouvelle constitution va être soumise à référendum le 30 octobre.
La police kényane a arrêté hier un Britannique ainsi que deux Somaliennes soupçonnées de vouloir faire du recrutement pour les islamistes somaliens Shebab. C'est ce qu'on a appris de sources policières. Le point avec Nani Talani.
L'homme, qui travaille pour une agence de publicité, a été arrêté lors d'une opération à son domicile dans le quartier résidentiel de Guigiri à Nairobi où vivent de nombreux expatriés. Nous avons trois suspects en garde à vue et l'un d'entre eux est britannique. Nous les interrogeons en vue de les déférer aujourd'hui mercredi devant un tribunal, a indiqué une autorité policière. Selon une autre source, les suspects sont soupçonnés de vouloir recruter de jeunes Kenyans pour les enrôler dans les rangs des Shebab et il existe des indices solides indiquant qu'ils ont voyagé vers et à partir de la Somalie à plusieurs reprises et l'enquête sera centrée sur ces éléments. Nous étudions la piste de la radicalisation, a encore indiqué la source. Les Shebab, qui sont affiliés à Al-Qaïda, cherchent à renverser le gouvernement somalien, soutenu à bout de bras par la communauté internationale. Mais ils mènent aussi des attaques au Kenya, qui fournit depuis 2011 un contingent militaire à la force de l'Union africaine en Somalie, visant principalement les non-musulmans.
Le département d'État américain a mis en garde l'Éthiopie, un de ses partenaires en Afrique de l'Est, contre les risques que pose l'état d'urgence décrété dimanche dans ce pays confronté à sa pire crise contestataire depuis 25 ans. Cette crise a commencé en région Oromo en novembre 2015 et s'est étendue depuis l'été à la région Amhara. La répression gouvernementale a fait plus de 500 morts selon des organisations de défense des droits de l'homme.
L'ex-chef des rebelles du Soudan du Sud, Riek Machar, a quitté mercredi Khartoum, où il vit en exil depuis qu'il a fui Djouba. Après de violents combats en juillet, le chef de la rébellion dit se rendre en Afrique du Sud pour des examens médicaux. C'est la première apparition devant la presse de Riek Machar depuis juillet.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Deux attaques différentes ont visé des mosquées chiites de Kaboul à l'occasion de la grande fête d'Ashura hier soir, a indiqué aujourd'hui le porte-parole du ministère de l'Intérieur qui tentait de préciser le bilan du deuxième attentat. Jean-Roger Bion fait le point.
La première attaque est survenue en début de soirée contre la mosquée Carter Saki dans le quartier de l'université dans l'ouest de la capitale. Elle a fait, selon le dernier bilan officiel, 14 morts et 36 blessés parmi les pèlerins réunis pour cette célébration la plus importante du calendrier chiite. Mais selon le porte-parole du ministère Sadiq Sadiki, une deuxième attaque a eu lieu, cette fois à Carter Shah, autre quartier de l'ouest de Kaboul où résident des membres de la minorité chiite. Les talibans ont démenti mercredi matin toute responsabilité. Nous n'avons rien à voir dans l'attentat de la mosquée de Carter Saki. Nous sommes profondément affectés par cette attaque contre des civils, a affirmé sur Twitter leur porte-parole Zabihullah Mujahid. Il ne fait aucune mention d'une deuxième attaque. Partout dans le monde, la communauté chiite commémore mercredi la mort de l'imam Hussein, petit-fils du prophète Mahomet, assassiné en 680 et dont la fin tragique constitue un épisode fondateur du chiisme. La journée est donc ferré en Afghanistan et les responsables difficiles à joindre.
Merci Jean-Roger. Israël a bouclé les territoires palestiniens et placé sa police en état d'alerte à Jérusalem pour parer à tout attentat à l'occasion de la fête de Yom Kippour qui a débuté mardi soir. Des dizaines de milliers de fidèles sont attendus dans la vieille ville de Jérusalem pour la plus solennelle fête du calendrier juif de mardi soir à mercredi soir et pour Soukhot à partir de dimanche soir et pour une semaine.
En Syrie, les bombardements sur les quartiers rebelles d'Alep, les plus violents depuis plusieurs jours, ont tué hier au moins 25 civils. Après un calme relatif pendant le week-end, des avions russes ont de nouveau mené des raids intensifs sur des secteurs tenus par les rebelles syriens, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme.
En Irak, des responsables gouvernementaux et américains indiquent que les djihadistes truffent Mossoul de bombes et enrôle des femmes et des enfants pour en faire des indicateurs. C'est ainsi qu'il se prépare à la grande offensive de l'armée gouvernementale et de ses alliés chiites et sunnites pour reprendre la ville au groupe État islamique. Cette bataille devrait être lancée ce mois-ci avec l'appui aérien de la coalition internationale dirigée par les États-Unis et à laquelle participe la France. La reconquête de Mossoul, tombée en juin 2014, affaiblirait considérablement le mouvement terroriste.
Au Myanmar, des affrontements entre l'armée et des hommes armés ont fait 12 morts dans l'état de Rakhine, où des violences avaient été signalées pendant le week-end. Selon un quotidien officiel birman, 4 militaires et un assaillant ont péri mardi quand des centaines de personnes armées ont attaqué des soldats dans le village de Pyongpit. Les militaires ont retrouvé ensuite 7 corps, a ajouté le journal.
Présidentielle américaine, la campagne de Donald Trump au bord de l'implosion. Le candidat républicain a exprimé sa déception et sa colère ce mardi sur Twitter après l'annonce publique du président de la Chambre basse, Paul Ryan, qu'il ne battrait plus campagne pour Trump. Donald Trump a accusé ses pairs républicains de manquer de loyauté et de torpiller sa campagne. Le porte-étendard républicain est dans la tourmente depuis la publication vendredi d'une vidéo de 2005 où il tient des propos dégradants à l'égard des femmes. Nous y reviendrons en partie magazine.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, John Linden.
En Côte d'Ivoire, le Fonds de développement de l'EVIA veut investir 18 milliards de francs CFA pour venir en aide à la filière malmenée par la chute du cours du caoutchouc naturel, qui est passé d'un peu plus de 1 000 francs CFA par kilogramme en 2011 à environ 274 francs CFA actuellement. D'après le magazine Jeune Afrique, ce financement devrait permettre la poursuite de la distribution gratuite de pépinières et surtout la formation des seigneurs. Les besoins sont estimés à 55 000 ouvriers. L'Égypte a lancé des appels d'offres pour son approvisionnement en pétrole après la suspension par le géant pétrolier saoudien Aramco de la livraison de 700 000 tonnes de produits pétroliers. L'Arabie saoudite avait passé un accord en avril avec l'Égypte pour la fourniture sur 5 ans de 700 000 tonnes de produits pétroliers par mois pour une valeur de plus de 20 milliards de dollars. De plus en plus d'éditeurs européens sont en colère contre Facebook et Google. Les mastodontes du web continuent de capturer une part toujours plus importante des revenus publicitaires numériques. Google et Facebook devraient s'arroger plus de la moitié des revenus de la publicité numérique en Grande-Bretagne cette année et jusqu'à 58% aux États-Unis.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa.
L'Algérie, de nouveau sans sélectionneur.
Oui, Milovan Rajevac a été limogé 3 mois seulement après sa nomination dans la foulée du match nul des Fenech contre le Cameroun, 1-0 en ouverture des éliminatoires du Mondial 2018. En attendant la désignation d'un nouveau sélectionneur, les entraîneurs adjoints Nabil Néguiz et Yazid Mansouri mèneront la barque des Verts. L'Algérie a raté son entame des qualifications et devra rapidement se rattraper dans la poule de la mort où se côtoient le Nigeria, le Cameroun et la Zambie.
Match qualificatif pour la Coupe du Monde 2018 ce mardi sur la planète football.
En Europe, le champion du monde allemand accueillait l'Irlande, victoire 2-0. La Norvège domine facilement Saint-Marin, 4-1. L'Angleterre, sans Wayne Rooney dans son 11 de départ, a été tenue en échec 0-0 à Ljubljana face à la Slovénie, une prestation terne où l'Angleterre a connu plusieurs frayeurs, elle aurait pu s'incliner. Victoire sèche, 3-0 de la Slovaquie contre l'Écosse.
Les premiers résultats de la zone Asie.
La Chine chute en Ouzbékistan 2-0, une troisième défaite dans le troisième tour des qualifications pour ce Mondial 2018. L'Irak balaie la Thaïlande grâce à un quadruplé de Mohanad Abdulhaïm à la 7e minute, à la 25e minute, à la 87e minute et dans les arrêts de jeu. Victoire 4-0 pour les Irakiens qui comptaient juste avant ce match 3 défaites. Le Japon lui a freiné l'Australie. Le leader du groupe B a été tenu en échec 1-0. C'était mardi face au Japon.
Tennis Master de Shanghai.
Le numéro 1 mondial Novak Djokovic, qui n'était plus apparu sur un court depuis sa défaite en finale de l'US Open, eh bien le Serbe a réussi sa rentrée en se qualifiant pour les 8e de finale. Djokovic a battu l'Italien Fabio Fognini, 50e joueur mondial, le score 6-3-6-3. Quant au Français Gaël Monfils, il s'est également qualifié pour les 8e de finale en battant le Sud-Africain Kevin Anderson, 40e joueur mondial, le score 7-6-6-3.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seloudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. La République du Congo a lancé un ambitieux programme visant à revaloriser l'agriculture et à réduire l'exode rural. Mais Brazzaville a besoin des bailleurs de fonds pour le réaliser. Eddy Sango a discuté de ce programme ici à Washington avec le ministre d'État congolais chargé de l'agriculture, Henri Diombo, en visite aux États-Unis.
Notre dossier a retenu l'attention de tous nos partenaires, surtout les partenaires financiers. Et aujourd'hui, nous nous préparons avec eux pour passer à une autre étape qui doit réunir aussi bien des bailleurs de fonds que des investisseurs dans une conférence internationale pour soutenir le programme congolais.
Vous parlez aussi de la sécurité alimentaire. Il y a un programme, un projet avec la Banque mondiale. De quoi sera-t-il question exactement?
Il est question en 3 ans de mener frontalement des programmes en ce qui concerne l'agriculture, la pêche et l'élevage, de sorte qu'on accroisse l'offre alimentaire nationale, qu'on réduise les importations alimentaires, en fait, et puis bon, ben, qu'on lance dans le pays un vaste mouvement de retour à la terre qui va être l'inverse de ce que nous avons connu cette décennie, l'exode rural, pour que les actifs agricoles deviennent plus nombreux.
De quoi avez-vous besoin pour réaliser ces projets-là?
Ben, c'est un programme de 2 milliards de dollars à peu près sur 3 ans qui consiste à encadrer les producteurs, à leur apporter les ressources dont ils ont besoin pour leurs exploitations, à promouvoir le secteur privé et surtout l'agro-business. L'État devra intervenir sur les infrastructures de base comme celles de stockage, comme l'irrigation, les pistes agricoles et ainsi de suite. Et les organismes opérationnels vont intervenir à l'assistance des petits producteurs dans l'accès au crédit, au mini-crédit et un crédit de proximité. La Banque mondiale va être accompagnée aussi par d'autres bailleurs et d'autres donateurs, comme le FIDA, les fonds arabes et bien d'autres, la Banque africaine de développement.
On connaît la situation du poule avec le pasteur Ntoumi. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait d'abord résoudre ces problèmes de paix pour que les gens aient dans leur champ sans inquiétude?
L'organisation du désordre que vous évoquez n'est pas du fait des populations ni du gouvernement. Par contre, le gouvernement, qui est le comptable aujourd'hui de la situation, a pris toutes les dispositions pour qu'elle puisse être résolue. Il faut effectivement continuer à persuader les jeunes sous la houlette de Ntoumi d'arrêter le désordre. Vous savez, on va lancer tous ces programmes sur l'ensemble du territoire national. Mais là où il n'y a pas de sécurité, on ne peut pas s'engager.
C'était Henri Diombo, ministre d'État congolais, en visite de travail à Washington.
Vous êtes sur VOA Afrique à Brazzaville, sur le 101.9 FM.
L'archevêque de Bangui, Monseigneur Dieudonné Zapalenga, 49 ans, a été promu cardinal par le pape François. L'annonce en a été faite dimanche lors de l'Angélus à la Cité du Vatican. Se félicitant de cette nomination, Monseigneur Zapalenga l'a placé sous le signe de la réconciliation en invitant les Centrafricains, toutes confessions religieuses confondues, à œuvrer pour la paix, condition sine qua non du développement, a-t-il dit. Au micro de Félix Yepassis Zembrou, écoutons Monseigneur Zapalenga.
C'est une mission que moi j'accueille dans l'humilité, dans la simplicité, car je ne suis pas digne de l'assumer. Je fais confiance à Dieu qui donne des grâces nécessaires pour me permettre de réaliser cette mission. Voilà pourquoi j'aurais besoin de mes frères, les évêques, j'aurais besoin des prêtres, j'aurais besoin des chrétiens, de tout homme, toute femme, de toute bonne volonté. Car j'ai toujours œuvré avec mes frères protestants, musulmans et autres religions pour l'avènement de la paix. Et c'est dans cette mission-là que je dois m'y insérer.
Monseigneur, cette nomination, vous la placez sous quel signe?
Je place cette nomination sous le signe d'un retour à la paix, de la cohésion et surtout l'entente entre les religions religare et en latin, religion veut dire relier. Or, souvent, certains utilisent la religion pour diviser. Et nous pensons qu'il est temps pour que nous, hommes de Dieu, pasteurs, imams, prêtres, puissions nous lever comme un seul homme pour dire que nous devons être unis pour défendre la vie, pour annoncer un monde nouveau, qui a la fraternité, unis parce que la paix est la condition sine qua non pour un développement, pour une croissance, et nous en avons besoin en Afrique, en Europe, de par le monde. Et pour nous, croyants, Jésus est venu annoncer un monde nouveau, annoncer cette paix.
À propos de paix, Monseigneur, quelles sont les chances de paix en Centrafrique avec les événements de ces derniers temps au kilomètre 5 et dans l'arrière-pays?
La chance de la paix dépend de Dieu. En même temps, cette chance de la paix dépend de nous, Centrafricains. Pourquoi ça dépend de Dieu? Parce qu'il est le créateur, le maître de tout. Et ça dépend de nous parce qu'il a confié toute l'humanité entre les mains de l'homme. À nous, Centrafricains, de nous asseoir, de dialoguer par la concertation pour prendre une option décisive en disant il est temps d'arrêter la guerre, il est temps d'arrêter les conflits, il est temps de se voir en face, il est temps de respecter, d'estimer l'autre, il est temps de collaborer, il est temps aussi de regarder dans la même direction. C'est la condition sine qua non pour que nous puissions demain parler d'une Centrafrique nouvelle. Sinon, nous allons de manière interminable continuer nos guerres. Et je pense que le moment est venu et je lance cet appel à tous les Centrafricains. Et puis, des patriotismes, des nationalismes, d'enterrer leur hache de guerre, de laisser leur cœur se désarmer pour que l'amour rentre dedans, pour que la fraternité entre, pour que la paix y entre et qu'afin qu'ils puissent désarmer aussi leurs esprits pour comprendre, aimer, estimer aussi l'autre pour bâtir ensemble avec nos frères la nouvelle Centrafrique. Personne ne gagnera. Celui qui va gagner, c'est le peuple centrafricain qui gagnera cette guerre. Celui qui va perdre, c'est le peuple centrafricain. Si nous sommes centrafricains, nous devons dire nous avons tous perdu, nous avons tous gagné et nous avons intérêt à gagner. Il est temps de présenter un beau visage, un visage qui attire, un visage séduisant. Et ça dépend de tous les centrafricains qui m'écoutent et qui s'engageront résolument à enterrer leur hache de guerre.
C'était Monseigneur Dieudonné Zapalenga, archevêque de Bangui.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
En Haïti, l'ouragan Matthew a fait au moins 473 morts et 330 blessés lors de son passage la semaine dernière, selon un bilan encore provisoire de la protection civile publié hier. Un deuil national de 3 jours a été décrété dimanche. Avec 244 morts, le département de la Grande Anse est le plus touché. Plus de 175 500 Haïtiens sinistrés sont encore aujourd'hui réfugiés dans des abris provisoires, dont de nombreuses écoles, ce qui a empêché près de 100 000 enfants de reprendre lundi les cours comme prévu par le ministère de l'Éducation. Pour en savoir plus, Claire Morin-Gibourg a joint l'ancien journaliste et responsable du parti Unir, Clarence Renoir.
Écoutez, c'est une situation catastrophique qui concerne, je dirais, la moitié du pays parce que l'ouragan a fait des dégâts sur 5 départements, sur 10 départements que compte Haïti. Et donc aujourd'hui, on est dans une situation humanitaire d'urgence. Le gouvernement a décrété, par exemple, l'état de calamité pour une ville dans le sud, qui est la ville d'Eka, la 3e ville du pays. Mais en réalité, c'est l'ensemble de ces 5 départements qui sont touchés, avec plus particulièrement 3 départements, le Sud, la Grande Anse et les NIP, qui sont dans une situation catastrophique de calamité, de détresse et de situation d'urgence humanitaire, où des millions de populations sont aujourd'hui exposées à des intempéries, à des maladies, des épidémies et probablement aussi bientôt à la famine.
On parle aussi d'une recrudescence du choléra.
Oui, effectivement, dès que le cyclone s'est déclaré sur Haïti, la question s'est reposée. Parce que vous savez que les gens dans les campagnes vivent dans une situation de précarité très grave, où il n'y a pas d'eau courante, pas d'eau potable. Et ce sont des populations qui puisent l'eau dans les sources. Et comme il a beaucoup plu ces derniers jours, à cause du passage de ces intempéries, de l'ouragan, donc les sources sont polluées et les gens n'ont pas de moyens pour traiter l'eau. Et tout de suite, l'épidémie de choléra s'est à nouveau envolée, déclarée dans certaines sections du pays, dans certains villages, certaines petites villes, et il y a déjà 30 de personnes tuées par cette maladie et 100 d'autres qui sont hospitalisées.
Qu'est-ce que les autorités ont mis en place jusqu'à aujourd'hui?
Pour le moment, il y a une grande solidarité internationale qui s'est manifestée, c'est une bonne chose. Les États-Unis, les voisins vénézuéliens, cubains, la République dominicaine, les pays d'Europe, la France et les autres sont tous venus au secours d'Haïti rapidement pour apporter de l'aide alimentaire, des médicaments. Il y a des médecins cubains qui sont déployés également en Haïti aujourd'hui. Donc il y a une solidarité internationale qui s'est tout de suite manifestée. Vous savez, ce pays a souffert d'un séisme très violent en 2010 et il y a encore des gens qui sont sous les tentes et qui sont venus ajouter à leur situation l'ouragan Mathieu. Alors, sur ce plan-là, ça marche. Cependant, il y a un blocage au niveau gouvernemental, je dirais, parce que le gouvernement dit, écoutez, nous avons pris leçon de ce qui s'est passé en 2010. L'aide internationale a été mal coordonnée, mal distribuée, mal gérée. Maintenant, nous voulons centraliser tout. C'est à nous que l'aide doit être confiée pour être redistribuée à la population. Cependant, entre la mise en place de cette bureaucratie qui peut être longue, administrativement coûteuse et en termes de temps, il y a l'urgence. Il y a l'urgence, il y a des populations qui sont dans le besoin de trouver de l'eau à boire, de trouver de la nourriture, de trouver un toit pour se loger, etc., se reloger. Donc il y a une urgence humanitaire et là je crois que ça pose un problème parce que les organisations qui sont sur place ne sont pas autorisées à intervenir tout de suite, ce qui retarde la distribution de l'aide aux personnes les plus démunies ou sinistrées aujourd'hui.
Clarence Renoy, ancien journaliste et responsable du parti Union nationale pour l'intégrité et la réconciliation en Haïti. Présidentielle américaine 2016, le candidat républicain Donald Trump continue de faire face au tollé provoqué par ses propos dégradants sur les femmes. Son adversaire démocrate Hillary Clinton fait face à une nouvelle série d'emails publiés par WikiLeaks. Le point avec Timothée Donangmaï.
Trump et ses partisans ne décollèrent pas après la décision du président de la Chambre des représentants, Paul Ryan, de ne pas battre campagne pour lui, mais plutôt d'aider le Parti républicain à maintenir sa majorité à la Chambre. Toutefois, leur grand problème se situe ailleurs, dans la vive controverse déclenchée par cette vidéo de 2005 dans laquelle le candidat républicain tient des propos dégradants au sujet des femmes. Sans distinction d'opinion politique, ces dernières ont décidé par milliers de faire part de leur propre expérience de victime d'attaques sexuelles. C'est le cas de Jennifer McGraw, une femme de Cleveland, à l'Ohio, qui a décrit sur un blog dimanche les abus qu'elle a subis en tant qu'enfant et le viol dont elle a été victime par la suite. Les propos décriés de Trump suscitent un débat national sur les violences sexuelles et c'est quelque chose de très puissant, explique Delila Romberg, président du Centre national des ressources sur les violences sexuelles basé à Harrisburg, en Pennsylvanie. Ironiquement, les propos du candidat républicain ont poussé les femmes à se lever et s'exprimer, note pour sa part Alexa McGriffith, jeune femme de 28 ans, qui a, elle aussi, écrit sur Internet au sujet de son expérience de survivante d'un viol. La furie féminine contre la vidéo de 2005 risque de coûter à Donald Trump les voix d'une importante frange de l'électorat au moment où les embûches semblent se multiplier sur son chemin vers la Maison-Blanche.
La démocrate Hillary Clinton continue de battre campagne alors que son équipe électorale gère la controverse suscitée par des emails piratés du compte du président de la campagne John Podesta et publiés depuis vendredi par WikiLeaks.
Ces emails révèlent notamment que le camp Clinton était impatient de tourner la page sur l'utilisation par elle d'un serveur privé installé dans la cave de sa maison de l'État de New York pour ses communications du temps où elle était secrétaire d'État. Il montre aussi que l'équipe de Mme Clinton a mis du temps à prendre conscience de l'ampleur du problème. Dans l'un des emails, le porte-parole de la campagne de Mme Clinton, Brian Fallon, informe le reste de l'équipe avoir appris par d'anciens collègues au ministère de la Justice qu'une audience judiciaire était imminente sur le dossier du serveur privé. Pour le camp Trump, c'est bien une preuve de plus d'une collusion entre la campagne d'Hillary Clinton et le ministère de la Justice, une accusation que rejette le camp de la candidate démocrate.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, VOAAfrique en direct de Washington. Voilà pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.